je reconnais. J'étais présente. Oui, j'ai menti. Si j'ai menti, c'est parce que Ghislaine me disait « tu n'as rien fait ». Donc je n'ai pas à te mettre dans une affaire où tu n'as rien à voir là-dedans, quoi.
Novembre 1998, vers 18h, deux policiers du commissariat de Honfleur prennent la route à travers la campagne normande. Ils viennent de recevoir un appel. Une femme de 67 ans, Gisèle Loquet, ne donne plus signe de vie depuis la veille au soir. À l'extérieur de la grande maison normande, aucune lumière. Tout semble tranquille. Mais à travers la porte du salon, les deux hommes ont une vision d'horreur.
Au pied de la cheminée, cette image assez saisissante. Un corps réduit à l'état de cendre. On sent tout de suite la violence de l'incendie.
C'est un policier de SRPJ qui m'apprend le décès de Gisèle.
Elle avait des relations tendues avec sa belle-mère, qui était une véritable marâtre.
Elle était quand même assez éprouvée, là, manifestement. Elle le dit.
J'y suis pour quelque chose dans le décès de Gisèle. Et la vérité, c'est qu'on a frappé chacune notre tour.
Là, mettez tout sur le dos, mais tout, de A à Z.
Plus on avance dans la lecture du dossier, plus on a l'impression de s'enfoncer dans l'obscurité.
Si j'ai menti, c'est parce que Ghislaine me disait « tu n'as rien fait ». Donc je n'ai pas à te mettre dans une affaire où tu n'as rien à voir là-dedans.
Commissariat de Caen, le 17 novembre 1998.
Ce soir-là, je suis de permanence et c'est mon chef de service qui, aux environs de 23h, m'appelle pour me signaler la découverte d'un corps. A priori calciné, dans une ferme aux alentours de Honfleur, à Aecmoville.
Dès l'aube, les policiers de Caen se rendent sur place à la fermette de la Jacques-Aimée.
Ce matin-là, il faisait très froid, on était aux alentours de 0 degré, peut-être un petit peu moins. Le temps était très gris. C'est une ferme qui est en bord de route, mais on y accède par un long chemin en terre qui nous amène vers cette maison typique du Pays d'Auge.
Les policiers arrivent sur place, ils vont faire le tour de la maison. Il n'y a rien, il n'y a pas de traces d'effraction particulière. Ils s'aperçoivent qu'une porte, celle de la cuisine, n'est pas verrouillée et ils vont rentrer à l'intérieur de la maison.
Là, dans cette arrière-cuisine, se trouvent des reliefs de repas de la vaisselle datant de la veille de deux personnes.
Les policiers pénètre alors dans le salon.
Au pied de la cheminée, cette image assez saisissante. Un corps réduit à l'état de cendre et d'un pied apparemment préservé du feu qui en sort. Donc une image très forte et qui démontre tout de suite, on le sent tout de suite, la violence de l'incendie.
Manifestement, le corps est peut-être posé sur un fauteuil puisqu'on retrouve aussi des morceaux de bois de fauteuil dans cet amas de cendres.
Pour tenter d'identifier le cadavre, les enquêteurs interrogent Colette, une voisine. C'est elle qui leur a signalé la veille la disparition de son amie. En observant le tas de cendres, la vieille dame est catégorique.
C'est bien le chausson qui appartient à son amie.
Plus de doute, il s'agit du corps calciné de Gisèle Loquet, 67 ans, qui gît devant la cheminée. Alors que s'est-il passé dans la ferme de la Jacques-Aimée ? À en croire le désordre qui règne dans la maison, il pourrait peut-être s'agir d'un cambriolage qui aurait mal tourné.
Les placards sont ouverts, certains éléments de lingerie, draps et autres, sont au sol ou sur le lit.
Toutes les armoires ont été vidées et descendues par terre. C'est pas compliqué, c'est que là, il y a eu quasiment ce qu'on pourrait dire un acharnement, si vous voulez.
Mais chose étrange, rien ne semble avoir disparu. Et plus incroyable encore, le ou les auteurs du crime n'ont pas touché aux objets de valeur de la victime. Et il y en avait pourtant.
Nous trouvons quelques pièces de monnaie sur la table, des bijoux. Et dans la montée de l'escalier, trois sacs de toile de jute qui contenaient plusieurs centaines de pièces de monnaie. Si on a affaire à un crime de rôdeur, il n'aurait vraisemblablement pas laissé passer cette aubaine. Cette fouille n'est qu'un simulacre de fouille. Comme si on avait voulu faire croire qu'on avait affaire à un crime crapuleux.
Arrivés sur place, les techniciens de la police scientifique ratissent la pièce à la recherche du moindre indice. Près du tas de cendres se trouvent les lunettes de la victime, ainsi que des traces de sang suggérant une lutte violente. Ce n'est pas tout, des mégots sont disséminés un peu partout dans la pièce.
Et notamment dans un cendrier sur la table de séjour, des mégots de cigarettes par terre près des lunettes de la victime. Tout cela a été emmené au laboratoire.
Le reste du corps réduit en cendres est transporté au service de médecine légale du CHU de Caen. Vu l'état du cadavre, c'est un objet retrouvé dans les cendres qui permettra d'identifier avec certitude la victime.
C'est une chevalière qu'on va retrouver dans le tas de cendres qui va permettre d'identifier Gisèle Locker.
Quant aux causes de la mort, le corps est trop carbonisé pour permettre de les déterminer. L'enquête sur la mort de Gisèle Locker commence. D'après l'état civil, la victime est veuve et n'a pour seule famille que les deux enfants de son défunt mari, Christophe et Ghislaine. Ce sont eux qui sont les premiers à apprendre la terrible nouvelle.
C'est un policier de SRPJ qui m'apprend le décès de Gisèle. Il me dit j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Gisèle Locker est décédée.
Quant au frère de Ghislaine, Christophe, il semble détaché lorsque Valérie, sa compagne, lui apprend la nouvelle.
Christophe était surpris. Il me dit « Bah merde !» Je m'en rappelle. « Bah merde, qu'est-ce qui s'est passé ?»
Dans le pays d'Auge, Gisèle Locker est une figure locale. Sa famille était à la tête d'une véritable institution, l'auberge de la Truite. En 1975, Gisèle se marie avec Bernard Locker, un homme durement touché par deux décès tragiques, celui d'une de ses filles, Isabelle, et celui de sa femme. À chaque fois, dans un accident de voiture. Cependant, Bernard a toujours donné de lui l'image d'un homme courageux, qui fait face.
Papa passait beaucoup de temps à ses loisirs, la chasse, le bal-trap, et les copains. Je pense que c'était sa façon de faire son deuil par rapport à ma mère et à Isabelle, notre petite sœur.
Christophe et Ghislaine sont âgés de 13 et 3 ans lorsque leur mère meurt. Gisèle, leur nouvelle belle-mère, les accueille sous son toit, mais ne leur accorde que très peu de temps. D'autant qu'après avoir tenu l'auberge de la Truite, Bernard et Gisèle achètent un bar PMU à Honfleur, puis une brasserie à Cabourg, une station balnéaire de la côte normande. Gisèle Locker est décrite par tout le monde comme une femme dure, avec du tempérament.
C'est quelqu'un qui a eu du caractère, mais du gros caractère, attention. C'est pas du caractère qui tient la route. Mais sinon, c'était très gentil. Quand elle appréciait les gens, si elle appréciait pas, c'est mort.
En 1995, Bernard et Gisèle vendent leur dernière affaire et prennent leur retraite dans la fermette de la Jacques-Aimé. Trois ans passent, jusqu'à ce que Bernard tombe malade et décède d'un cancer du poumon. Alors, lorsque le corps de Gisèle est retrouvé calciné quelques semaines seulement après la mort de son mari, les enquêteurs se demandent si elle ne s'est pas suicidée. Mais visiblement, pour les proches de la victime, la réponse est sans appel.
Non. Non, t'es pas du genre suicidaire ni dépressif. Ça, c'est certain.
Comment la veuve de 67 ans a-t-elle pu finir carbonisée au milieu de son salon ? Dans la région, l'étrange décès de Gisèle est au cœur de toutes les discussions.
Les gens, ils sont sous le choc parce que, bon, c'est a priori un crime. Mais faut savoir aussi que le Pays d'Auge est une région peu criminogène. Dans le département du Calvados, c'est une moyenne. Vous avez 4 crimes qui sont commis chaque année.
Dans le village, les gens parlent. Et très vite, faute de pouvoir mettre un visage sur le ou les assassins de Gisèle Loquet, les théories les plus farfelues voient le jour.
Nous avons été sollicités, nous avons été presque démarchés par des spécialistes en combustion spontanée.
Rapidement, les policiers découvrent que Gisèle Loquet avait un penchant pour l'alcool. Et d'après les mauvaises langues, à cause de cela, la retraitée se serait embrasée comme une torche.
On nous a expliqué qu'un corps imbibé d'alcool auprès d'une cheminée pouvait se consumer de manière imprévue et sans aucun apport extérieur.
On évoque l'affaire Mary Reeser, qui date de 1951, où une Américaine du même âge avait été retrouvée morte calcinée. Et c'est pareil, il restait un pied dans une chaussure.
Le mystère de la Jacques-Aimée fait couler de l'encre, car la justice doit maintenant se prononcer. S'agit-il d'un incendie criminel ou d'un accident ? Deux experts vont se pencher sur la question.
Ils ne vont pas dire la même chose. Je dirais même que c'est diamétralement opposé. Le premier dit qu'il n'est pas possible qu'un corps puisse être entièrement détruit par un feu, par des flammes, sans un accélérateur, genre fuel ou essence.
Le premier expert parle donc de mise en scène opérée par une main extérieure.
Le deuxième expert a posé 6 kilos de viande de bœuf sur le fauteuil. Et après quelques heures de combustion, aidée par le textile du fauteuil, la viande avait totalement disparu.
Alors Gisèle Loquet aurait-elle commis une imprudence en s'endormant trop près du feu ? Ou quelqu'un aurait-il incendié son corps pour effacer les traces de son crime ? Pour les hommes de la SRPJ de Caen, la piste criminelle ne fait aucun doute. L'enquête va se concentrer sur les dernières heures de Gisèle Loquet, c'est-à-dire la soirée du 16 novembre 1998. Ce soir-là, la restauratrice a invité, souvenez-vous, son amie Colette pour le dîner.
C'est son amie Colette qui nous explique qu'elle est en fait la dernière personne, vraisemblablement, à avoir vu son amie vivante.
Au menu, huîtres et champagne. Un dîner plutôt festif, jusqu'à 23h, heure à laquelle Colette prend congé. Et ce n'est que le lendemain matin, soit le 17 novembre, que Colette va s'inquiéter.
Colette essaie de prendre des nouvelles de son amie dans la journée. Elle l'appelle à plusieurs reprises. Pas de réponse au téléphone.
La suite, les policiers la connaissent. Colette appelle les secours et en parlant aux enquêteurs sans le vouloir, elle va donner une information capitale.
Ce que nous disait Colette, c'est que Gisèle avait l'habitude de boire son café dans ce bol.
Avant de mourir, Gisèle Loquet aurait donc pris son petit déjeuner. Les enquêteurs en déduisent qu'elle était encore vivante le matin du 17 novembre.
Nous découvrons dans l'embrasure de la porte d'entrée, une carte de visite d'un vendeur de cidre. Il est venu ce jour-là, vers midi, pour rencontrer Madame Loquet. Il trouve porte close. Il aperçoit une lueur, ce qu'il pense être la cheminée, qui est en fait le corps de Madame Loquet qui brûle. Nous pensons que la mort est survenue entre 6 heures du matin, levée de Madame Loquet, et midi, l'arrivée de ce témoin.
Que s'est-il passé dans la fermette de la Jacques-Aimé entre 6 heures du matin et midi ? Des témoignages ne vont pas tarder à mettre les enquêteurs sur une piste. En effet, les proches de la victime racontent aux policiers que les relations entre Gisèle Loquet et les enfants de son mari, Christophe et Ghislaine, étaient exécrables.
Les beaux enfants, elle évitait d'en parler. Quand on en parlait, ça le faisait pas, quoi. Mais attention, hein, aussi bien de ce côté que du leur. Hein.
Leur relation n'était pas au top, disons. Ils s'entendaient pas, voilà. Quand Ghislaine arrivait au bar, quand elle la voyait arriver, son visage changeait d'expression. On voyait bien que ça allait mal se passer.
Mais celui qui intéresse le plus les enquêteurs, c'est Christophe Loquet, 26 ans.
Nous apprenons, notamment par nos collègues de Honfleur, que Christophe, quelques mois avant la mort de son père, s'était fâché avec lui au point de se battre avec lui et de lui casser le bras.
Frapper son père, pourquoi pas frapper la belle-mère, hein. Donc, tout de suite, on a pensé à lui. Hein.
Dès lors, les enquêteurs vont privilégier la thèse d'un drame familial. Christophe, le beau-fils de Gisèle, devient le suspect numéro 1. Il est placé en garde à vue.
On a vérifié en long, en large et en travers son emploi du temps.
Et l'alibi de Christophe semble solide. Le jeune homme raconte que le 16 novembre 1998, dans la soirée, il a rejoint des amis pour une grande partie de chasse et qu'il est resté avec eux toute la nuit jusqu'au lendemain midi. Un emploi du temps que ses copains chasseurs vont confirmer.
Son alibi me semble solide. Ses camarades de chasse n'ont a priori pas de raison de ne pas courir le risque de le couvrir pour une affaire aussi grave.
Christophe est donc mis hors de cause. Pour autant, les policiers n'abandonnent pas la piste familiale. Ils vont maintenant s'intéresser à Ghislaine. Cette dernière, à 33 ans, elle est concierge à Deauville. Et elle ne mâche pas ses mots quand elle évoque sa relation avec sa belle-mère.
Je ne m'entendais pas du tout avec Gisèle, qui, dès qu'elle a été mariée avec papa, est devenue très méchante. Elle était souvent saoule. Et j'étais son souffre-douleur.
Elle avait des relations tendues avec sa belle-mère, qui était une véritable marâtre et qui lui avait fait vivre l'enfer pendant toute sa jeunesse. Et elle nous explique qu'effectivement, elle est attristée par la mort de cette femme, mais pour elle, c'est pas un bouleversement. Et donc, cette sincérité nous étonne.
Mais Ghislaine, elle aussi, a un alibi. Le 16 novembre, elle a passé la soirée avec Valérie, la compagne de son frère, Christophe. Les deux femmes sont en effet très proches.
Je dis aux enquêteurs que je suis allée au restaurant à Honfleur avec Valérie. Et que nous sommes allés aussi boire un verre dans un bar de nuit. Voilà.
Après le bar, on commençait à être un petit peu fatigué, donc nous sommes retournés chez Ghislaine. C'était à peu près minuit. Nous sommes couchés et puis voilà. Voilà ce que je raconte à la police.
Cette nuit-là, les deux femmes passent la nuit à Deauville, chez Ghislaine, et restent ensemble jusqu'au 17 novembre, à midi.
Ghislaine et Valérie vont confirmer leur emploi du temps de cette matinée. en disant qu'elles ne se sont finalement pas quittées, qu'elles se sont occupées des enfants, qu'elles ont fait un certain nombre de choses. Elles sont entendues séparément et elles disent la même chose. En conclusion, elles ont un emploi du temps, un alibi finalement qui semble parfaitement tenir la route.
Si l'on en croit leur déclaration, Ghislaine et Valérie n'étaient donc pas dans la fermette de la Jacques-Aimée à l'heure du drame. Dès lors, comment expliquer que l'ADN des deux femmes ait été retrouvé sur les mégots de cigarettes et les tasses à café découverts sur la scène de crime? Ghislaine et Valérie donnent une explication. Le 15 novembre, deux jours avant sa mort, elles ont rendu visite à Gisèle, la restauratrice. Ghislaine était venue récupérer un souvenir de son père, tout juste décédé.
C'est le fameux jour où je suis montée avec Ghislaine pour récupérer la casquette de son père.
Parce que Gisèle n'avait rien proposé, hein. Même pas un petit souvenir, un truc. Et puis moi, j'attache de l'importance à tout ça, quoi. Elle m'a dit « oui, tu peux la prendre ».
C'est donc le dernier contact qu'elles auraient eu avec la victime. Ghislaine, Valérie et Christophe ont tous un alibi pour la matinée du crime. Pourtant, la suite de l'enquête va étayer un peu plus la conviction des policiers. C'est dans le huis clos de cette famille recomposée que le drame a dû se nouer. Car d'après tous les témoignages, depuis le décès de Bernard Loquet, une véritable guerre s'était engagée entre Gisèle et ses beaux-enfants. Au cœur de la bataille, les affaires personnelles de leur père. La tension avait d'ailleurs atteint son paroxysme deux semaines avant la mort de Gisèle. Ce jour-là, Christophe et Ghislaine débarquent à l'improviste à la Jacques-Aimée.
Christophe lui dit « Bon, bah écoute, Gisèle, je viens de voir parce que je voudrais récupérer les fusils de papa. » Et elle lui dit « Comment ça ? Tout est à moi. » Enfin bon, elle a commencé à s'enflammer. Christophe, il se laissait pas faire. Du coup, elle a dit « J'appelle les flics. » Christophe a dit « Vas-y, appelle-les si tu veux. »
Face à la détermination de Christophe, la restauratrice va céder. Mais cet incident va sceller définitivement la mésentente entre Gisèle Loquet et ses beaux-enfants.
Depuis ça, justement, je pense qu'elle avait peur qu'il se passe autre chose, qu'ils viennent récupérer d'autres choses.
Elle nous avait bien dit que depuis que Bernard était mort, tous les Loquet étaient morts.
Au centre des tensions, l'héritage que Bernard Loquet aurait laissé derrière lui. Christophe et Ghislaine craignent-ils que Gisèle ne les prive de leur part d'héritage?
Christophe était allé voir le notaire, lequel avait bloqué à leur demande le compte bancaire de Monsieur Loquet au moment de son décès. Ce qui n'avait pas plu à Gisèle.
L'argent serait-il le mobile du crime? D'autant que Gisèle aussi est une femme riche.
Elle possède la ferme, la Jacques-Aimée, elle a de l'argent sur ses comptes bancaires et des assurances vie dont les bénéficiaires sont Christophe et Ghislaine.
Une nouvelle fois, Ghislaine se retrouve sous les projecteurs. Et ce sont ses comptes bancaires qui vont intriguer les policiers.
La jeune femme qui est concierge dépense beaucoup plus d'argent que son salaire ne peut lui permettre.
Et pour cause, car Ghislaine se livre la nuit à une passion dévorante.
J'interview mon collègue des renseignements généraux de l'époque qui s'occupait des courses et jeux. Il me dit « Mais je la connais, moi, je la connais !» Elle s'est fait interdire de jeu il y a quelques années. Elle jouait énormément au casino. On se rend compte que Ghislaine nous ment.
Le jeu m'a beaucoup de nuit dans cette affaire. Beaucoup de nuit. Parce qu'il est vrai que j'ai emprunté de l'argent à ma famille. Je ne disais pas que c'était pour jouer, bien entendu, sinon il ne m'aurait pas prêté.
C'était son salaire, tout y passait. Ou quand elle avait bouffé toute sa paye en une journée dans le casino, en une heure. Donc elle en empruntait à sa grand-mère en lui mentant, en lui disant un jour c'était la machine à laver qui était morte. Ou sa voiture qui avait un accident, des réparations.
Dans certains casinos où elle était connue, elle évitait d'y aller, ou alors elle se grimait.
J'étais déguisée avec des vêtements de Philippe, mon compagnon, un jean à lui, trop grand, un petit peu quand même, mais bon, c'était très bien. Et un manteau de Philippe, un manteau vert, je me rappelle. C'était drôle parce que je suis passée partout.
Et les policiers découvrent que Ghislaine Loquet, au moment du décès de sa belle-mère, était prise à la gorge financièrement.
On s'est rendu compte finalement qu'elle était en déficit d'autour de 400 000 francs à peu près sur ces années-là. Et comme par hasard, la banque lui avait retiré sa carte bancaire et son carnet de chèques 3 jours avant le décès de Gisèle. Elle nous avait caché tout ça. Donc Ghislaine avait une double face.
À ce moment-là, les enquêteurs m'ont soupçonné d'avoir fait du mal à Gisèle, de l'avoir tuée, oui, pour les comptes, pour l'héritage, etc. Alors que c'était pas du tout le cas, parce que on savait que ce qui était à Gisèle était à Gisèle et ce qui était à papa était à papa. C'est tout.
Le 29 mars 1999, les policiers placent Ghislaine Loquet en garde à vue. Mais aussi Valérie Levillain, la compagne de son frère, celle qui lui a fourni un alibi.
Ça fait peur parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'elle a pu dire ou qu'est-ce qu'elle a pu cacher à la police pour que moi j'en arrive là.
Mais encore une fois, les policiers n'obtiendront rien. Les deux femmes n'en démordent pas. Au moment des faits, elles ont passé la soirée et la matinée du 17 ensemble. Elles vont ressortir libres du commissariat. Au bout de 10 mois, l'enquête est au point mort. Les policiers n'ont pas l'ombre d'une piste. Mais le 3 septembre 1999, un mystérieux coup de téléphone va changer le cours des choses. Au bout du fil, Ghislaine Loquet. Elle donne rendez-vous aux policiers dans le petit cimetière où est enterré son père, sans leur fournir la moindre explication.
Nous arrivons en début d'après-midi au cimetière de Saint-Martin-en-Chartrain, un joli petit cimetière normand dans la campagne. Et je me souviendrai toujours de cette image de Ghislaine. Près de la tombe de son père, elle est habillée d'un sous-vêtement blanc.
Elle était quand même assez éprouvée, là, manifestement. Elle le dit.
J'y suis pour quelque chose dans le décès de Gisèle.
Sur la tombe de son père, et à 2 pas de la sépulture de Gisèle Loquet, Ghislaine va d'un coup libérer sa conscience.
Pour moi, c'était important que ça se passe là-bas. Parce que avant que je parle, je faisais beaucoup de cauchemars et je rêvais de papa qui me disait « Va voir les enquêteurs et dis-leur ce qui s'est passé ». Ils m'ont dit « à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue ».
C'est donc au commissariat que Ghislaine Loquet va poursuivre son récit. Près d'un an après la mort de Gisèle, voici ce qu'elle raconte aux policiers. Le soir du 16 novembre 1998, elle a bien passé la soirée en compagnie de Valérie, la compagne de son frère. À un détail près.
Avant d'arriver à Honfleur, elles sont passées devant la Jacques Aimé. Et là, Ghislaine a aperçu une voiture qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est dit rapidement que peut-être Gisèle avait déjà oublié son père et que c'était peut-être un homme qui venait la visiter. Et cette idée, nous dit-elle, trotte dans son esprit pendant toute la soirée.
Je me suis couchée, je ne trouvais pas le sommeil et j'ai décidé de me relever et de retourner à la fermette, la Jacques Aimé.
Vers minuit, Ghislaine quitte donc la maison sans réveiller Valérie. Lorsqu'elle arrive à la Jacques Aimé, Gisèle est seule, et pourtant le ton va monter très vite entre les deux femmes.
Elle me suit, elle crie, elle m'insulte. La goutte qui a fait déborder le vase, oui, c'est l'insulte à ma grand-mère, qui j'étais qu'une pute à boche. Et ça, c'est... Je suis entrée dans une colère noire. Je lui ai mis une première claque, plusieurs peut-être, je sais plus. Et je suis passée près de la cheminée et il y avait le bois dessous. J'ai pris une bûchette et je l'ai tapé plusieurs fois avec cette bûchette.
Ghislaine est formelle. Elle a asséné 7 coups de bûche à sa belle-mère, mais lorsqu'elle l'a quittée, cette dernière était encore en vie, assise dans son fauteuil, un peu groggy. Seulement, les policiers n'y croient pas une seule seconde.
Les déclarations de Ghislaine nous font réaliser que nous avons commis une erreur dans la datation de la mort et qu'elle est survenue beaucoup plus tôt dans la nuit et non pas le matin, comme le suggérait Colette, l'amie de Madame Lequin.
Les enquêteurs ont désormais des aveux, mais un mystère demeure. Comment Gisèle Loquet est-elle morte carbonisée ?
Je vous affirme que je n'ai pas mis le feu à mon départ. J'ai mis une raclée à Gisèle et je suis partie.
Nous savons que ces aveux ne sont que partiels, qu'elle nous cache une partie de la vérité.
À l'issue de sa garde à vue, Ghislaine Loquet est mise en examen pour homicide volontaire. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Caen.
Ouverture aujourd'hui aux assises du Calvados de l'audience sur le meurtre de Ghislaine Loquet.
Ce matin du 28 novembre 2000, le procès de Ghislaine Loquet fait salle comble.
Ce que tout le monde veut savoir, c'est comment Madame Loquet est morte. Et surtout qui l'a tuée.
Ghislaine prend place dans le box des accusés. Tous les regards se tournent vers elle.
J'ai été très intimidée. C'est quelque chose. Hein. Vous sentez que vous avez je ne sais combien de perdus qui vous scrutent.
Restez confiante. On se faisait des petits clins d'œil, l'air de dire t'inquiète pas, ça va aller. Alors que moi j'étais effondrée. De toute façon, j'arrêtais pas de chialer parce que ça me faisait mal de la voir là.
Et c'est la relation entre Gisèle et sa belle-fille qui va être au cœur des débats.
On nous pose des questions sur mon enfance, sur le déroulement de ma jeunesse après la mort de maman, de ma sœur. On me demande beaucoup de détails qui sont douloureux à raconter. Tout ce qu'elle m'a fait subir physiquement et psychologiquement. Les coups qu'elle m'a donnés, les vilaines choses qu'elle m'a dites.
Battue ou enfermée dans un placard, Ghislaine relate une jeunesse brimée auprès de Ghislaine Loquet qu'elle dépeint comme une véritable marâtre.
Je réclamais beaucoup ma maman, toute petite. Et elle me disait, de toute façon, ta mère, elle voulait divorcer. Elle me disait ça.
Au-delà de la maltraitance infligée par sa belle-mère, les jurés découvrent les tourments de cette femme, hantée par une question obsédante.
Depuis quand elle fréquentait mon père ? Depuis quand ? Est-ce que c'était déjà du vivant de ma mère ? Et ça, je le saurai jamais. Et ça m'empêchera toujours d'être bien. Parce qu'il y a trop de mystères dans cette famille. Trop de mystères.
Ghislaine soupçonne même sa belle-mère d'avoir provoqué le décès de sa mère et de sa sœur en usant de magie noire pour qu'elles aient un accident de voiture.
C'est vrai que chez nous, quand même, c'est quelque chose, toutes ces morts tragiques.
À la barre, le psychiatre parle de carence affective et d'un passage à l'acte quasiment passionnel.
Les ressentiments de l'enfance, tout est ressorti en quelques heures et surtout en quelques minutes lorsqu'il y a eu cette confrontation entre Ghislaine et sa belle-mère. Elle reconnaît avoir donné des claques, puis des coups de bûchette sur la personne de Ghislaine Loquet.
Et Ghislaine de raconter pourquoi, ce soir de novembre 1998, elle s'est levée en pleine nuit pour rendre visite à sa belle-mère.
J'avais besoin que Ghislaine dise, avoue, reconnaisse qu'elle avait été une marâtre avec mon frère et moi. J'avais besoin de ça pour aller mieux, pour sortir de cette dépression.
Devant la cour, la jeune femme fait forte impression. Elle devient une sorte de cendrillon qui, au bout de 28 années de malheur, s'est rebellée pour la première fois.
Par moments, on a presque l'impression que c'est une oratrice professionnelle, brillante, qui ne cédera en rien, qui ne tombera dans aucun piège tendu, soit par les avocats, soit par l'avocat général. Elle se bat pied à pied contre l'accusation.
Très émue, sa belle-sœur Valérie est appelée à témoigner.
J'ai rien pu dire. J'étais quoi ? J'étais 5 minutes à la barre, c'est tout. Je pouvais rien dire.
Après 2 jours d'audience, Ghislaine le jure. Lorsqu'elle est partie le 17 novembre 1998, sa belle-mère était encore en vie. Elle ne l'a pas tuée. Mais pour l'avocat général, l'accusé ment.
Dans son réquisitoire, il se montre intransigeant, intraitable. Il considère que l'accusée a agi sciemment, volontairement, qu'elle a eu l'intention de donner la mort, qu'elle a utilisé une violence qu'il qualifie d'inouïe. Et il va demander une peine de 12 ans de réclusion criminelle.
Quand les jurés reviennent pour annoncer le verdict qu'ils ont donné à Ghislaine, il n'y a pas un bruit dans la salle.
Dans un silence de plomb, la salle retient son souffle et la sentence tombe. 7 ans de réclusion criminelle.
Je me suis écroulée. Hein. Je m'en rappelle, j'ai appelé ma mère. Pour moi, c'était énorme. C'est vrai que quand on vous dit 7 ans, 7 ans en prison, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est injuste.
Elle était mal jugée. C'est dégueulasse, c'est mal fait. Ils sont inhumains, ces gens-là. Parce que ma belle-sœur reste là enfermée, et puis eux, on s'en fout.
Seul lot de consolation pour Ghislaine Loquet, les jurés ne l'ont pas condamnée pour meurtre, mais pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Après 2 ans d'enquête et un procès, le mystère de la Jacques-Aimée plane toujours. Mais fait rarissime dans les annales judiciaires, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement avec, dans le box, une nouvelle accusée. 5 ans plus tard, alors que Ghislaine Loquet a purgé sa peine, un témoignage va relancer l'affaire.
En 2005, le dossier revient sur mon bureau de manière assez surprenante.
Une certaine Sylvie est entendue par un juge d'instruction pour une affaire de maltraitance sur enfant. C'est Valérie Levillain, sa collègue de travail, qui l'a dénoncée. Et à la dernière question de son audition, Sylvie va faire au magistrat une révélation fracassante.
Sylvie, elle dit effectivement, j'ai maltraité mes enfants, mais celle qui m'accuse a commis bien pire, elle a participé au meurtre de Madame Loquet avec sa belle-sœur.
Si l'on en croit les déclarations de Sylvie, Valérie Levillain, la belle-sœur de Ghislaine, a donc menti depuis le début. Elle serait, en fait, directement impliquée dans la mort de Gisèle Loquet. En avril 2006, une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire. Les policiers reprennent l'enquête à zéro.
Nous savons d'emblée que l'enquête va être peut-être plus difficile que la première. Nous n'avons plus d'éléments matériels, les scellés ont été détruits, la ferme elle-même a été détruite, mise en place un projet immobilier. Nous savons d'emblée que nous allons devoir nous contenter d'éventuels témoignages.
Une seule personne peut peut-être les aider, c'est Ghislaine Loquet, qui grâce aux remises de peine est sortie de prison. Le 20 septembre 2006, elle est convoquée au commissariat par le lieutenant Yannick Leroy.
J'ai revu Monsieur Leroy avec son collègue qui m'a dit « Mon magicien, maintenant ça suffit, on aimerait bien avoir la vraie histoire. » J'ai répondu à Monsieur Leroy que rien n'avait changé, que j'étais seule ce soir-là.
On s'attendait à ce qu'elle nous confirme qu'elle était seule, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle nous dise le contraire. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment elle réagissait par rapport à cette nouvelle information et puis surtout à cette nouvelle enquête. C'était ça qui nous importait.
Les enquêteurs ont tout prévu. Ils ont placé Ghislaine Loquet sur écoute. Et deux jours plus tard, Thierry Breuys entend une conversation entre Ghislaine et son fils Paul.
Il rentre dans mon bureau et me dit « ça y est, on a la preuve ».
Ghislaine a raconté à son fils son audition. Et voici ce que le jeune homme lui répond.
Son fils a une réaction spontanée. Et il lui dit, il lui répond, « Alors, ils savent que t'étais pas toute seule. »
Elle va croire que tu l'as balancée.
Tais-toi, tais-toi. J'étais toute seule, point final. J'étais toute seule.
Pour les enquêteurs, désormais, les choses sont claires. Ghislaine avait bien une complice, et ils la connaissent.
La seule plausible, c'est Valérie Villers.
Le 9 octobre 2006, les enquêteurs placent Valérie Levillain en garde à vue.
Ma fille m'appelle, elle me dit « Maman, il y a la police qui veulent te voir. » Bon. Ok, d'accord. Je monte dans la voiture de la police et puis là, ils ont complètement changé. Ils sont devenus froids, enfin, plus un sourire, plus rien, livide. Ils me disent « Bon, ben, voilà. » Ça, ça m'a marqué. Il est 19h15. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Donc on est descendu au commissariat. Ils m'ont mis dans une espèce de geôle sans rien m'expliquer. Malgré que je leur posais des questions, ils disent vous aurez bien assez de temps pour le savoir.
Dans le bureau des auditions, l'ambiance est très tendue.
Elle est assez virulente et fermée. Elle refuse de répondre aux questions, elle refuse de signer les procès-verbaux d'audition, elle est en conflit.
Valérie Levillain est formelle. Le soir du 16 novembre 1998, elle n'était pas présente dans la fermette de la Jacques-Aimé. La pression monte d'un cran lorsque les enquêteurs brandissent une nouvelle déposition reçue par fax. Elle est signée par la propre sœur de Valérie et la jeune femme ne mâche pas ses mots.
Valérie Levillain a achevé Gisèle. Vous êtes bien sûr, c'est bien le terme « achevé » qu'elle a employé. Oui, elle a bien dit qu'elle avait achevé Gisèle.
Je m'étais dit « ça c'est une astuce de flic ». Est-ce que les flics sont très forts pour plaider le faux pour savoir le vrai ? Donc je leur dis non. D'abord, c'est un mot que je n'emploie pas, et puis c'est pas possible. Je leur dis, c'est pas possible.
Pour autant, les enquêteurs ne lâchent pas Valérie Levillain.
Ils pensent faire basculer Valérie lorsqu'ils avancent la pièce maîtresse de leur accusation, c'est la présence du mégot. Un mégot qui supporte l'ADN de Valérie, à côté du cadavre. Valérie va dire « Oui, effectivement, c'est possible que vous ayez retrouvé un mégot m'appartenant dans cette pièce. J'y suis passé deux jours avant. »
Maintenant, Valérie est interrogée sur les déclarations de Sylvie, la femme qui l'avait dénoncée à la juge d'instruction. Une fois encore, elle a réponse à tout.
Pour moi, elle a juste voulu se venger parce que du coup, elle était privée de ses enfants. Et elle savait que moi, en privant de mes enfants, c'était la pire des choses qui pouvait m'arriver. Tu peux me priver de tout. Enfin, on peut me priver de tout ce qu'on veut, mais pas mes enfants.
Face à une Valérie Levillain récalcitrante, les enquêteurs décident de tout miser sur Ghislaine Loquet. Le lendemain, elle est placée en garde à vue. Et presque 8 ans après le drame, les policiers vont entendre une toute nouvelle version.
J'avoue aux policiers que Valérie était là, effectivement, et que j'ai frappé la première et qu'ensuite, Valérie l'a frappée aussi. Après l'avoir frappée, nous avions laissé Gisèle dans sa maison, assise dans son fauteuil, bien consciente et bien vivante.
Alors, pour faire craquer Valérie, les enquêteurs vont lui lire immédiatement l'audition de sa belle-sœur. Et cette fois, Valérie vacille et va changer de version.
Oui, je reconnais. J'étais présente. Oui, j'ai menti. Si j'ai menti, c'est parce que Ghislaine me disait « tu n'as rien fait ». Donc je n'ai pas à te mettre dans une affaire où tu n'as rien à voir là-dedans, quoi.
Valérie l'avoue. Elle était bien à la fermette aux côtés de Ghislaine le 16 novembre 1998. Mais seulement, elle n'a pas levé la main sur Gisèle.
J'étais là dans la chambre de Bernard qui se trouve au rez-de-chaussée. C'est quand je me suis retrouvée dans la pièce que j'ai vu qu'elles se battaient toutes les deux. C'est là que Ghislaine, elle avait l'espèce de petit bout de bois dans la main et qu'on a mis un coup à Ghislaine. Je me suis mise entre elles deux en disant d'arrêter, que ça allait trop loin, quoi.
Face aux policiers, Ghislaine et Valérie sont en tout cas d'accord sur un point. Gisèle était encore en vie lorsqu'elles sont parties de la fermette.
L'affaire reste malgré tout encore assez obscure, puisque les deux femmes n'ont pas la même version sur les faits qui se sont déroulés ce soir-là.
Plus on avance dans la lecture du dossier et plus on lit les déclarations des uns et des autres, plus on a l'impression de s'enfoncer dans l'obscurité.
Qui a tué Gisèle Loquet ? Les deux femmes l'ont-elles frappée ? Pourquoi Ghislaine a-t-elle attendu 8 ans avant de dénoncer sa belle-sœur Valérie ? Beaucoup de questions et peu de réponses.
Et Ghislaine, elle me disait je serais seule à prendre parce que toi, t'as rien fait. Je me suis servi de toi, quoi. Tu m'as servi de témoin. Mais il n'y a pas eu un pack où... Non, il n'y a pas eu de pack de mis entre nous deux.
Mais Ghislaine n'est pas du même avis.
Lorsque nous sommes partis du domicile de Gisèle, nous avons bien dit que la première qui craquait ne balancerait pas l'autre. C'était un pacte. Je l'ai toujours respecté. Je l'ai toujours protégée, ma belle-sœur. Toujours.
En effet, depuis qu'elles se connaissent, les deux femmes se sont toujours épaulées pour surmonter leurs difficultés.
Valérie, j'étais très proche d'elle. Et elle comprenait bien. Et on se soutenait parce qu'elle n'a pas toujours eu la vie facile avec Christophe. Hein. Christophe, il avait un sacré caractère. Il n'était pas évident à vivre. Et je la comprenais bien. Quand elle me racontait ses misères, moi, je la soutenais.
Valérie, c'est une femme, pour employer une expression commune, un petit peu grande gueule. C'est-à-dire qu'elle donne l'impression de ne pas avoir froid aux yeux, de dire les choses de manière un peu brutale. En réalité, c'est quelqu'un de fragile qui a mis 30 ans à faire le deuil de son père, qui a eu dans sa vie une succession d'hommes violents.
Les deux femmes présentent de nombreuses similitudes dans leur parcours. C'est ce qu'a révélé Jean-Pierre Choquet, le psychiatre, qui les a rencontrées toutes les deux.
Je pense que ce sont deux femmes qui ont beaucoup souffert, qui se sont épaulées mutuellement, qui ont cru retrouver l'une dans l'autre une béquille affective qui leur manquait. Et malheureusement, ce qui aurait pu rester une belle amitié s'est terminé tragiquement.
Depuis la condamnation de Ghislaine en 2000, les deux femmes ont définitivement coupé les ponts.
J'ai été un petit peu quand même, un petit peu amère, contrariée, parce que moi j'ai pris 7 ans pour ces coups que j'ai donnés, et je la défends, je fais ce que je peux, et elle vient plus me voir au parloir.
On s'est fâchées toutes les deux pour une histoire d'enfant. Donc c'est là que je lui ai dit que c'est pas que je la ne soutiendrai plus, mais je lui ai dit maintenant je viendrai plus.
Ghislaine aurait très mal vécu cet abandon de la part de celle qu'elle considérait comme une sœur. Alors a-t-elle voulu se venger en dénonçant Valérie ?
Je suis restée en détention provisoire pendant 5 mois. Ça a été la pire période de ma vie.
Le 2 avril 2010, une reconstitution est organisée ici, à Lisieux. Il s'agit de déterminer les rôles précis de Ghislaine Loquet et de Valérie Levillain.
Mon rôle ce soir-là, c'est... On est venu, j'ai fouillé la maison, Et on est reparti.
Je pensais que Valérie dirait vraiment ce qui s'était passé. Et en fait, non. Elle restait sur sa version qu'elle n'avait pas touché Gisèle. J'étais pas une balance, c'était pas à moi de dire.
Chacune des deux femmes campe sur ses positions.
Et puis en fin de matinée, Ghislaine Loquet dit à la juge « J'ai décidé de parler ».
Et cette fois-ci, Ghislaine va aller encore plus loin dans ses révélations.
La vérité, c'est qu'on a frappé chacune de notre tour. Gisèle, moi la première, Valérie ensuite. Elle a étranglé Gisèle. On a mis Gisèle dans le fauteuil. Et le bout du drap, on l'a mis dans la cheminée.
À en croire Ghislaine, Valérie serait donc la meurtrière.
Là, elle mettait tout sur le dos, mais tout. De A à Z, c'était moi qui avais tout fait. Elle n'avait plus rien fait. Quand j'ai entendu ça, ça m'a... J'ai pris deux fois plus peur. De toute façon, j'ai refusé de faire tout ce que Ghislaine disait à la reconstitution.
Elle se rend compte que Ghislaine, qui était une amie proche, est devenue une ennemie acharnée. Elle n'apporte jamais deux fois de suite la même version. Face à la constance de Valérie, c'est quand même frappant.
Les enquêteurs, quant à eux, en sont persuadés. Après plus de 10 ans de mystère, Ghislaine vient enfin de révéler la vérité.
Les déclarations de Ghislaine sont en tout cas crédibles puisqu'elles sont, elles coïncident parfaitement avec les constatations.
Moi, je me souviens que dans les scellés que nous avons constitués en 1998, nous avons découvert, dans la cendre de la cheminée, une trame de tissu. Nous avons trouvé les lunettes de Madame Loquet à l'endroit précis où Ghislaine nous dit qu'elle est tombée d'abord. Je me souviens aussi qu'un mégot de cigarette se trouve à cet endroit, mégot qui supporte l'ADN de Valérie Devillain.
Chaque objet prend sa place et tout s'éclaire à ce moment-là pour nous.
Après 8 ans d'instruction, Valérie Levillain est finalement renvoyée devant la cour d'assises pour homicide volontaire. Le 12 octobre 2014, son procès s'ouvre au palais de justice de Caen. Valérie comparaît libre devant une salle bien remplie.
Je crois que j'avais surtout peur du regard des gens qui étaient là. Qu'on me juge déjà sans savoir, sans me connaître.
Dans la salle, les mêmes témoins qu'en 2000 se retrouvent. Seul Christophe Loquet manque à l'appel. Il est décédé en 2013. Lui aussi, chose incroyable, dans un accident de voiture, comme sa mère et sa sœur. Puis vient le tour des principaux témoins à charge. Sylvie, l'ancienne collègue de travail, par qui l'affaire avait redémarré, puis la propre sœur de Valérie Levillain, qui l'accusait aussi du meurtre.
Et là commence ce qui aura, vraiment, ce aura été la phrase de l'ensemble des 2 jours d'audience. Je ne me souviens plus, je ne me rappelle plus, je ne sais plus très bien.
Mais la déposition la plus attendue reste celle de la première accusée devenue témoin. 14 ans plus tard, Ghislaine Loquet fait son entrée dans la même cour d'assises.
J'appréhende comment ça va se dérouler. En fait, c'est un deuxième jugement pour la même affaire, mais qui me concerne autant.
Elle caresse tout le temps la barre, on a l'impression qu'elle essuie la barre, on la sent pas très à l'aise en fait.
Ghislaine livre son dernier récit de la soirée du 16 novembre 1998.
Ce qui m'a traumatisé le plus dans son énième version à Ghislaine, c'est qu'elle racontait que je m'étais mise à califourchon sur Gisèle pour l'étrangler.
Il n'y a plus d'enjeu pour Ghislaine. Elle a été condamnée, elle a purgé sa peine, elle ne peut pas être condamnée de nouveau. Donc là, elle peut laisser libre cours à son imagination sans limite. Mais malheureusement, elle est incapable de donner la moindre précision sur ce qu'elle indique.
L'avocate de la défense ne va pas lâcher Ghislaine Loquet et la presse de questions. Mais celle-ci s'embourbe, élude, ne se souvient plus.
Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, à quel moment précis. On m'a reproché de mentir, de redire une autre version, mais franchement, je ne sais plus.
Elle a du mal à se regarder comme quelqu'un qui a tué sa belle-mère. Et je pense que se décharger du fardeau de la responsabilité de la mort de Gisèle sur Valérie, ça favorise son bien-être psychique.
Ghislaine finit par indiquer à l'avocate qu'elle ne répondra plus à ses questions et elle quitte la barre. Lorsque vient son tour de requérir, l'avocat général est formel.
Pour lui, Valérie Levillain est coupable. Pour lui, il parle de mise en scène macabre. Il y a eu strangulation. Elle l'a comme achevée, comme a pu le dire Ghislaine Loquet. Et il requiert 12 ans.
Je me suis dit, c'est pas possible, mais là, c'est un cauchemar. 12 ans. 12 ans juste pour une présence.
L'avocate de Valérie Levillain soulève le doute qui doit profiter à l'accusé. Rien ne prouve formellement que Gisèle Loquet était décédée lorsque les deux femmes ont quitté la maison. Elle plaide donc l'acquittement. La cour se retire pour délibérer. 3 heures passent.
Je retourne dans la salle, complètement stressée, je tremblais. J'étais complètement ailleurs.
À la première question, la cour a répondu non. Elle me dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je lui dis « Ça veut dire que vous êtes acquitté. »
La présidente a fini par le dire, mais ça a été vite. Mais à la fois, j'ai l'impression que ça a mis 20 minutes. Et quand j'ai entendu « acquitté » de la part de Madame la présidente, j'avais plus de force. Je me suis écroulé. Je crois que c'est Maître Duriguera qui m'a retenu et j'étais livide. J'avais plus de force, j'étais livide de tout. Soulagée, mais livide.
Valérie Levillain est donc innocente du meurtre de Gisèle Loquet. Discrète, au fond de la salle, Ghislaine quitte le palais de justice.
Je n'ai pas parlé à Valérie parce que on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue et puis... jamais d'accord.
Aujourd'hui, la même question reste en suspens. Comment est morte Gisèle Loquet ce 16 novembre 1998 dans cette petite ferme de Normandie ?